Siger a commencé ce culte en citant une des vieilles canailles, Johnny Hallyday. Et moi, je vais commencer l'espace qui est le mien en citant Pierre Marquès. Dimanche dernier, Pierre a introduit le culte par ce mot de l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Philippe. Telle est ma conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. J'ai souhaité ce matin me situer dans la ligne qui a été proposée dimanche, aussi bien par l'introduction de Pierre que par ce que nous avons entendu de la part de Jacques Bucold. Je voudrais méditer quelques passages de l'Écriture un peu dans la suite de ce qui a été donné. Donc cette citation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Oui, Dieu a commencé en nous une œuvre excellente et Paul est persuadé qu'il la continuera, qu'il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Plus loin dans la même lettre, Paul déclare pour lui-même ne pas avoir encore remporté le prix de la course. La course étant l'image de la vie chrétienne et pour l'apôtre plus spécialement de l'accomplissement de sa mission. Et il dit, je n'ai pas encore remporté le prix, mais je continue à courir vers le but. Et l'apôtre Paul invite ses frères à avoir la même pensée que lui en ajoutant, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble dans la même direction. L'apôtre Paul, encore, parle aux chrétiens de l'église de Thessalonique, et voici ce qu'il leur dit, entre autres choses. Frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça, c'est dans la première lettre. Et dans la deuxième, il dit, nous rendons grâce à Dieu parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour que vous avez les uns pour les autres s'accroît en chacun de vous. Progresser, avancer, cheminer. Nous sommes, avec bonheur, appuyés sur l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ, œuvre qu'il accomplit en chacun de nous, qu'il a commencé et qu'il continue. Et nous partageons bien sûr la conviction de l'apôtre Paul sur le fait que, comme dit le vieux cantique, en célébrant la persévérance de Dieu, ce qu'il t'a plu de commencer, sans se lasser, ta main l'achève. Nous voulons ce matin prolonger notre réflexion donc sur le cheminement du chrétien. Les textes cités nous y invitent. Après avoir entendu ce que Dieu fait en nous, notre perspective sera celle de notre participation, notre responsabilité dans la marche chrétienne. Mais nous l'envisagerons sous un angle particulier. L'apôtre Paul continue à courir, il persévère dans la foi. Il loue les Thessaloniciens pour leur progrès dans la foi et dans l'amour. Et il les exhorte à continuer. Il encourage ses frères à penser et à faire comme lui, en envisageant la possibilité qu'ils aient sur tel ou tel point une pensée différente. Mais en soulignant que ces différences ne doivent pas les empêcher de marcher ensemble dans la même direction. Nous nous arrêtons donc plus particulièrement sur ce dernier point. Et pour apporter quelques éléments de réflexion sur ce sujet, je lis le début du 14e chapitre de la lettre de Paul aux Romains. Accueillez celui qui faiblit dans la foi sans discuter avec lui sur ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affermi dans la foi, ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre, qu'il tienne bon ou qu'il tombe? C'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange le fait pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour la nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Accueillez celui qui faiblit dans la foi, mais sans entrer avec lui dans des discussions d'opinion. Juste une petite parenthèse à ce niveau-là, ce n'est pas pour condamner toute discussion, puisque la discussion fait partie des éléments de la réflexion, du progrès, de l'échange et de ce qui est justement utile dans la communauté pour nous faire réfléchir et nous faire avancer. Mais c'est des discussions inutiles, des discussions qui n'aboutissent pas, des discussions, comme dit l'apôtre ailleurs dans la lettre à Timothée, qui s'attachent à des généalogies, des choses qui n'aboutissent pas de toute façon et donc qui sont inutiles. Accueillez celui qui faiblit dans la foi, mais sans entrer avec lui dans des discussions d'opinion. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affermi dans la foi, ne mange que des légumes. Cette traduction au plus près du texte permet de ne pas s'enfermer dans une classification simplifiée entre les forts et les faibles, comme s'il s'agissait seulement de deux catégories de chrétiens. Elle met en lumière le fait que chacun, à un moment ou à un autre de son parcours, en fonction de son état, de ses expériences ou des circonstances de la vie, peut se trouver affaibli dans la foi. Affaibli dans la foi. Le contexte des Philippiens, nous le connaissons, je le rappelle. Est-il permis ou non, est-il bon ou non pour des chrétiens de manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'était une des problématiques de cette époque-là, il y a très longtemps. Paul discute en détail de cette problématique dans le chapitre 8 de la première lettre aux Corinthiens, où il dit à ce propos: « Nous savons que les idoles ne sont rien et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par conséquent, nous avons en principe la liberté de manger de ces viandes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des divinités réelles. Alors leur conscience, qui est faible, nourrit en eux des sentiments de culpabilité. Dans ce cas, l'amour doit prévaloir sur la liberté. Je résume le débat. Et j'en viens à nous. Nous sommes tous marqués par notre éducation, l'environnement dans lequel nous avons grandi, les traditions et les usages que nous avons intégrés comme repères. Pour nous, nous pouvons nous y conformer, bien sûr, les prendre comme critères, ou, au contraire, à un moment donné de notre évolution, nous pouvons prendre ces éléments de la tradition pour les dépasser, pour aller plus loin. Dans les débats entre les problématiques que posaient les pratiques de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et les pratiques de la Nouvelle Alliance, vous connaissez cette expression de l'apôtre Paul encore dans la lettre aux Colossiens. Il y en a qui observent les jours, les sabbats, etc. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Quoi qu'il en soit, pour des chrétiens, avec un même souci de fidélité au Seigneur, le fait d'avoir sur tel ou tel sujet des opinions différentes, des manières de voir, de comprendre et d'agir différentes, c'est une réalité incontournable qu'il s'agit de prendre en compte. D'abord, pour éviter soit le jugement, soit le mépris. Et c'est ce que dit l'apôtre dès le début de ce chapitre 14 des Romains. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Ensuite, prendre en compte ces différences pour les rattacher au fait unique du désir de plaire au Seigneur. Désir commun pour l'un comme pour l'autre. Cet élément est essentiel. Il ne résout pas tous les problèmes de discernement concernant l'importance de ces différences. Mais il permet de cerner les différences auxquelles on peut appliquer ce principe d'unité dans la diversité, ou de diversité dans l'unité. C'est ce qui apparaît dans notre texte. Celui qui mange de la viande sacrifiée aux idoles, et celui qui n'en mange pas, celui qui fait une distinction entre les jours et celui qui les estime tous égaux, l'un et l'autre, avec des pensées, des convictions et des actions différentes, agissent pour le Seigneur. Pour ce qui est du manger, qu'il mange ou qu'il ne mange pas, les deux rendent grâce à Dieu. Et ces actions de grâce communes marquent l'importance de ce qui unit ceux qui ont deux manières de penser et d'agir différentes. Les deux manières de faire, jouir de la liberté ou s'abstenir par scrupule de conscience, s'opposent. Mais il faut bien se garder d'en faire une opposition entre fidélité et infidélité. Il ne s'agit pas du tout de cela. C'est la réalité de la vie des croyants dans la communauté ecclésiale. Non pas deux camps, deux groupes, mais deux aspects de la personnalité de chacun, deux moments dans l'évolution personnelle, deux possibilités de compréhension différentes, mais qui n'empêchent pas de marcher ensemble dans la même direction. Il est évident qu'il existe d'autres différences de compréhension et d'application de certains enseignements bibliques qui deviennent des désaccords graves et manifestent un éloignement notable par rapport à la vérité. Ce sont ceux que les apôtres dénoncent comme dérives loin de la vérité, comme c'est le cas pour Paul, qui désigne par exemple, entre autres, Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Il est évident que dans ce cas, le principe d'unité dans la diversité ne s'applique pas. Il peut arriver que la croissance du chrétien dans la foi, sa progression dans la marche avec Dieu, ébranlée par les secousses des épreuves, connaissent un ralentissement, voire un arrêt. Il peut arriver, par exemple, que pour un chrétien, l'affaiblissement de sa foi soit le résultat d'un certain nombre d'adversités qui l'accablent. C'est là que la conviction de l'apôtre Paul, rappelée au début, nous est précieuse. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ajoutons-y un autre élément de confiance qui est souligné dans notre texte de Romains 14 au verset 4. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. J'aime beaucoup cette dissymétrie. Elle est précieuse comme la première citation. Ainsi, celui qui est affaibli dans la foi n'est pas simplement dans une position inférieure, symétrique par rapport à celui dont la foi est plus ferme. Celui qui risque davantage de tomber est au bénéfice de soins particuliers de la part du Seigneur, celui qui a le pouvoir de le faire tenir. Quelle grâce, quel espoir, quelle bonne nouvelle! L'adversaire ne vaincra pas celui qui est chancelant. Il ne réussira pas à le mettre par terre. Dieu est avec nous. Il nous aime. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Courage, confiance. Saisissons pleinement cette grâce qui nous est accordée. Et je voudrais, dans la dernière partie de mon propos, dire que la possibilité dans l'Église de nous entraider à marcher de progrès en progrès malgré nos différences, ou même au travers de nos différences, cela constitue un immense bienfait, puisqu'au point où nous sommes parvenus, nous apprenons à marcher ensemble dans la même direction. Dans la communauté ecclésiale, avec ces différences, nous avons la possibilité, la riche possibilité de faire les uns et les autres, chacun et ensemble, des progrès dans la foi. La lumière de Dieu éclairant chacun, comme Sigère nous l'a rappelé tout à l'heure. Sa force se manifestant particulièrement dans notre faiblesse. Et à côté de ce que je viens d'évoquer de la part de l'apôtre Paul, en disant qu'il a cette confiance que celui qui est affaibli dans la foi tiendra bon parce que le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir, on peut ajouter sa propre expérience. Lorsque il a été sous la difficulté de cette écharde dans la chair, à propos de laquelle il a prié 3 fois le Seigneur de le délivrer, d'éloigner cette écharde, cette peine, cette charge, ce combat, cette difficulté. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Car ma force s'accomplit, se réalise dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul va à ce moment-là jusqu'à dire, du coup, je vais être fier de mes faiblesses, puisque elles apparaissent comme la possibilité que la puissance de Dieu se manifeste en moi. Alors ça, c'est pas l'apôtre Paul qui le dit, c'est moi, faisons pas exprès d'être faible. Mais quand même, c'est bien d'entendre ce que le Seigneur nous dit et ce que l'apôtre nous dit, à la fois au travers de ce dont il est convaincu que de sa propre expérience. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Le Seigneur vient pour le fortifier. Sa force se manifeste particulièrement dans la faiblesse. Je voudrais vous lire, pour terminer, deux passages connus qui parlent de ce que nous pouvons faire ensemble pour nous fortifier dans la foi et pour progresser ensemble et chacun dans la foi. Ce que Dieu a donné à l'Église, Éphésiens 4, je rappelle ce texte très connu, Éphésiens 4 à partir du verset 11. C'est Jésus qui a fait des dons de certains dans l'Église, certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en vivant selon la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est bien là le propos, grandir ensemble. C'est de lui, le Christ, que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Et l'autre texte est aussi très connu. Nous le lisons au début de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, dit l'apôtre, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Amen. Je vais vous proposer maintenant de chanter un très ancien cantique de Clément Marot, 16e siècle, qui reprend le psaume 138. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Nous chantons.